Bien, bonjour à tous, bienvenue. Alors, la semaine dernière, nous avons suivi certains des consultants de l'oracle de Dodone dans leur quête d'un interlocuteur suprahumain, puisque vous avez vu que ce n'était pas uniquement un interlocuteur divin. Donc, dans leur quête d'un interlocuteur suprahumain qui puisse recevoir les hommages et accéder à leurs vœux, rencontrer leurs attentes, quelles qu'elles soient. Et vous aurez vu que les attentes étaient extrêmement variées. Alors, nous avons constaté dans ce cadre que la catégorie des daimonos était potentiellement activable et que l'identification d'un interlocuteur singulier au sein de cette catégorie des daimonos pouvait être attendue, tout comme celle d'un dieu, d'une déesse ou d'un héros. Certes, vous l'aurez vu, vous l'aurez constaté avec moi la semaine dernière, le nombre d'attestations, des occurrences, donc le nombre d'occurrences des daimonos dans ce cadre reste limité en regard de ce que l'on trouve pour les autres catégories, les dieux notamment, qui se taillent la part du lion, mais aussi les héros. Donc, nombre d'attestations limité, ce qui invite à s'interroger sur la portée effective de l'ancrage cultuel de la catégorie. Mais ces occurrences, même peu nombreuses, attestent néanmoins que le daimon, prétendument confiné au registre littéraire, est susceptible d'émerger sur un autre plan, fût-ce dans un contexte spécifique comme celui d'une demande oraculaire. Donc c'est l'acquis du parcours auquel je vous ai convié la semaine dernière, avec ces quelques occurrences de daimon dans les tablettes oraculaires de Dodone, on voit émerger la catégorie ailleurs que dans ce que nous qualifions souvent un peu rapidement de littérature. En outre, on l'a vu aussi, un premier coup d'œil dans le corpus platonicien, tel que nous l'avons jeté la semaine dernière, ce coup d'œil, atteste que la notion était potentiellement mobilisable pour exprimer le statut des destinataires de culte au sein de la cité idéale qu'il mettait en place. Alors, je reviendrai bien évidemment sur ce dossier platonicien, mais je voudrais commencer par le commencement et plonger dans le corpus épique de la période archaïque, non sans perdre de vue qu'il conviendra à terme de comprendre les motivations des consultants de Dodone qui ont convoqué les daimonos à côté des dieux et des héros. Donc, j'ai convoqué Dodone la semaine dernière. Cela m'a permis d'étendre le point de vue cultuel, d'étendre plutôt la catégorie des daimonos au point de vue cultuel qu'on leur déniait généralement dans l'historiographie que nous avons vue ensemble. Et je n'oublie pas ce dossier, bien entendu, il faudra qu'on y revienne en conclusion. Mais là, je vais repartir dans les traditions narratives en envisageant tout d'abord, aujourd'hui et la semaine prochaine, le texte homérique, puis celui d'Hésiode et, de façon un peu plus marginale, les hymnes pseudo-homériques. Car contrairement à Jane Helen Harrison, je n'ai pas l'ambition de remonter au-delà des textes qui sont à notre disposition pour saisir une quelconque préhistoire de la religion grecque. Ce sont les producteurs et les utilisateurs des poèmes qui m'intéressent quand je vous parle d'Homère et d'Hésiode, au moment précisément où ces œuvres se sont cristallisées par l'écriture, se sont cristallisées et ont été pérennisées par l'écriture. C'est là que se situe le commencement que j'estime être accessible. Il n'est pas absolu, quel commencement serait absolu, à part le Big Bang peut-être, mais inscrit dans la réception de ces poèmes, mais je veux inscrire la réception de ces poèmes dans les petites communautés civiques que nous appelons des cités-États, dans les premiers siècles de leur mise en place. Donc nous sommes dans l'horizon du 8e, 7e siècle. Alors, avant d'entrer dans le vif de la matière concrète que je veux vous présenter aujourd'hui, juste une précision concernant les traductions que je vais afficher à l'écran. Dans la majorité des cas, ce sont des traductions que j'ai empruntées à la collection des universités de France, donc des traductions de Paul Mazon. Vous verrez simplement que quand le daimon apparaît en général je ne l'ai pas traduit, restant fidèle à ce que je fais depuis le début de ce cours. Donc je translittère la notion, et alors que Mazon, évidemment, la traduisait de façon variée. Donc les traductions, je les ai parmi chaque fois sur l'écran, mais sachez qu'elles proviennent, vous le ressentirez d'ailleurs, parce que Mazon, même si certaines traductions sont un peu vieillies, avait quand même ce souci du rythme en français. On a par exemple souvent des rythmes d'alexandrin dans la traduction de Mazon. Je trouve qu'en dépit de son âge, cette traduction garde de très grands mérites. Donc, première remarque, les traductions sont de Mazon. Deuxième remarque, je dois vous dire que d'un point de vue quantitatif, dans le corpus homérique, si l'on prend les occurrences de Théos, Dieu, de Daimon, on a en fait une relation de 1 à 9. C'est-à-dire qu'il y a 9 fois moins de Daimonus que de Théoi, enfin d'occurrence en tout cas du terme, donc 9 fois plus de Théoi que de Daimonus. C'est une proportion qu'il vous faut avoir en tête, puisque ici, évidemment, vous allez ressentir une impression de, comment est-ce que je pourrais exprimer cela, de daimonocentrisme, puisque c'est essentiellement de cela que je vais vous parler. Mais évidemment, il ne faut pas oublier toutes les occurrences de Théoi par ailleurs. Bon. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans la matière concrète, donc dans l'épopée, et voir ce que l'on découvre de cette notion de daimon au sein de l'épopée homérique. Alors, le premier constat que je souhaite vous soumettre relève de l'usage du terme daimon au pluriel, les daimones. Il n'y a pas beaucoup de cas dans l'épopée. On ne l'a que dans l'Iliade, pas dans l'Odyssée. Et quand ces occurrences apparaissent, les trois, elles sont au nombre de trois, vous les avez donc toutes sous les yeux ici, ce sont des occurrences qui désignent la collectivité des dieux, au même titre que Théoi. Donc on a affaire là, dans le cas des trois textes que je vais lire avec vous, à une sorte de synonymie avec les Théoi. Je lis les traductions avec vous. Donc on parle d'Athéna dans le premier cas, et c'est la voix du poète qui parle. Vous verrez que cette précision de l'instance d'énonciation est très importante dans l'enquête qui est la mienne aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ici j'ai précisé qui parle en fait. Donc dans le premier cas, c'est le poète qui parle d'Athéna, qui la décrit en disant « Elle s'en va vers l'Olympe et vers le palais de Zeus Portégide pour retrouver les autres dieux. » Et là, j'ai gardé la traduction de Mazon, même pour Daimonos, parce qu'effectivement, il y a une telle synonymie que ça peut être tout à fait légitime. Dans le cas du chant 6, avec le discours d'Hector, il s'exprime comme suit « Je m'en vais, moi, à Ilion, parler aux anciens du conseil, ainsi qu'à nos femmes, afin qu'elles supplient les dieux, vous voyez ici, prier, hein, c'est raomai, ça veut dire prier, supplier, intensément, il y a une intensité dans la démarche soulignée par ce verbe. Qu'elles supplient les dieux, et leur voue des hécatombes. Donc là encore, j'ai gardé la traduction qui me semble tout à fait légitime. Et enfin, le dernier cas au chant 23. Et me demanderais-tu un présent plus grand encore à tirer de chez moi ? Donc c'est Antiloque qui parle à Agamemnon. J'aimerais mieux te le donner sur l'heure. Que de me sentir loin de ton cœur à jamais nourrisson de Zeus, et coupable envers les dieux. Daimosin einai alitros. Là aussi, j'ai gardé la traduction de Mazon par Dieu. Quand bien même les emplois en question seraient conditionnés par des raisons métriques, ce que l'on ne peut évidemment jamais exclure. Cette coïncidence signifie une forme, je le répète, de synonymie au moins potentielle entre le registre des Théoi et celui des Daimonos dès les plus anciens emplois attestés, puisqu'ici on est vraiment dans le tout début des textes qui nous ont été conservés. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a une synonymie potentielle. Néanmoins, c'est surtout au singulier, le daimon, que le daimon se rencontre dans l'Iliade et dans l'Odyssée en une soixantaine d'occurrences environ, dont les contextes sont évidemment chaque fois absolument essentiels à la compréhension de leur usage. Et donc je vais tracer les lignes de force de ce que l'on trouve dans l'épopée homérique. Alors, une première formule ressort de cet ensemble, à savoir l'expression que vous avez sous les yeux, « daimoni isos », semblable à un daimon, si je dois traduire cette expression formulaire. Cette formule revient une petite dizaine de fois dans l'Iliade et jamais dans l'Odyssée. À chacune des occurrences de la formule, « daimoni isos », tant dans l'évocation du poète que dans les propos des protagonistes de l'action, donc je vous ai dit chaque fois, l'instance performative est importante. Or, daimoni isos, on peut le trouver sous, je dirais, dans la voix du poète, dans l'énonciation du poète lui-même, face aux circonstances, ou dans le discours des protagonistes. Donc on peut trouver les deux. À chaque occurrence, donc, de cette formule, l'agent ainsi désigné, celui dont on dit qu'il est semblable à un daimon, accomplit un mouvement rapide, fulgurant, qui dépasse de loin ce que l'on attend d'un simple soldat, puisque nous sommes dans l'Iliade et qu'il s'agit évidemment d'un champ de bataille. Il n'est sans doute pas anodin que soit ainsi qualifié, donc daimonisos, de semblable à un daimon, Diomède, auquel Athéna a donné une clairvoyance temporaire et qui s'attaque même aux dieux, hein, souvenez-vous, Diomède a une sorte de lucidité très provisoire qui lui permet de repérer les dieux sur le champ de bataille, lucidité provisoire que lui a conférée Athéna qui le soutient, et donc ça lui donne évidemment une force de frappe tout à fait inouïe par rapport aux autres, et Apollon va s'en plaindre de cette situation en interpellant Arès et en disant... Il, donc Diomède, il a d'abord approché et blessé Cypris au poignet, donc il a même blessé une déesse, en l'occurrence Aphrodite, puis il s'est jeté sur moi, dit Apollon, semblable à un daimon, daimoni issos. Donc voilà le genre de contexte dans lequel on a cette expression. Donc Diomède, mais aussi Patrocle, donc on a trois personnages, trois figures de l'épopée qui se voient ainsi qualifiées de semblable à un démon. À Daimon, pardon. Diomède, je viens de vous montrer un exemple. Patrocle portant les armes d'Achille, c'est-à-dire Patrocle augmenté d'une certaine manière de ce qui fait la force d'Achille, même si lui, il trouvera la mort dans cette initiative. Et enfin, Achille lui-même, au paroxysme de sa fureur contre Hector et les Troyens, après la mort de Patrocle. Donc vous avez ces trois figures. Donc c'est uniquement ces trois figures. Diomède, Achille et Patrocle, mais Patrocle portant les armes d'Achille, qui sont ainsi qualifiés par la formule daimoni issos. Le caractère formulaire de l'expression, vous l'avez vu dans l'exemple que je viens de vous montrer, le fait apparaître systématiquement en fin de vers, commandé cette fois par la forme verbale episeuto, donc chargée, hein, c'est le verbe episeuo qui veut dire chargé. Et les deux dernières fois par des verbes du même type, hein, qui signalent un mouvement rapide, un mouvement vif. Donc chaque fois, ce surgissement, il y a quelque chose qui surgit de cette comparaison. Donc voilà pour daimoni issos dans le contexte qui est le sien. Alors, on a aussi deux occurrences de cette expression que je veux traiter en même temps. Donc l'expression pros daimona intervient deux fois au chant 17 et s'inscrit en fait dans le même registre. C'est pour ça que je la traite en même temps, mais on change de point de vue. Vous allez voir que la question du point de vue dans cette affaire est fondamentale. Ainsi, Ménélas, je vous donne le contexte, c'est Ménélas qui s'apprête à ramener dans le camp des Achéens le corps de Patrocle, donc qui est tombé sous les coups d'Hector, mais ce dernier, donc Hector, inspiré par Apollon, ça, on le sait dans le contexte immédiat, se lève contre lui. Et Ménélas hésite alors face à Hector, et voilà ce qu'Homère nous dit. Il reflète, en fait, le poète reflète la délibération intérieure de Ménélas face à Hector. Et la délibération, c'est quand un homme prétend, contre un daimon, pros daimona, combattre un mortel que favorise un dieu, théos ici, il ne faut pas longtemps pour qu'un grand malheur dévale sur lui. Donc Ménélas s'est arrêté face à cet Hector-là, c'est-à-dire celui qui est soutenu par Apollon. Il regrette, je poursuis le contexte, Ménélas regrette aussi qu'Ajax ne puisse pas l'aider, dans la mesure où il n'est pas à ses côtés à ce moment-là, car, dit-il, enfin, toujours dans sa délibération, nous marcherions tous deux, rappelant notre ardeur guerrière, même contre un daimon, kai pros daimonaper. Alors, que. Donc, les premiers vers sont intéressants, ici, en ce qu'ils forment une sorte de glose de l'expression daimoni isos que nous avons vue précédemment. Le soldat ainsi qualifié est précisément le mortel que favorise un dieu. Et c'est contre un daimon que se jettent ceux qui le combattent, si l'on prend les deux occurrences de pros daimona au pied de la lettre. Alors, que veut dire le poète par là ? C'est pros daimona. Donc, j'en fais, je les rapproche de daimoni isos pour les raisons que je viens de vous dire. Essayons d'aller plus loin. Alors, dans la lignée de l'historiographie dont nous avons déjà parlé lors des deux premiers cours, certains interprètes ont vu, tant dans l'expression formulaire « daimoni isos » que dans les deux occurrences de pros daimona que vous avez sous les yeux, les traces d'une conception pré-homérique, celle d'une puissance mystérieuse, diffuse, impersonnelle, du type mana, hein, dont nous avons parlé à propos de Gernet, tributaire en cela de Durkheim. Donc, une puissance mystérieuse, diffuse, impersonnelle du type mana, dont Homer aurait gardé la trace, parallèlement à l'ordre des dieux olympiens personnalisés. Hein, vous reconnaissez ce point de vue qui était notamment développé par Jane Harrison, où on a l'idée d'une strate primitive dont on aurait peut-être encore quelques traces dans l'épopée, qui par ailleurs serait l'aboutissement parfaitement fini d'une toute autre conception. Et donc ce daimon désignerait, dans le cas du pros daimona que vous avez sous les yeux, une puissance mal définie qui préside au cours des événements. Vous avez compris depuis la semaine dernière que je ne souscris guère à ce type d'interprétation et je ne suis pas la seule. D'autres chercheurs avant moi n'ont pas manqué de souligner que c'est la faveur d'un dieu déterminé qui était, dans ce dernier cas, étroitement associé à la notion de daimon. Et c'est particulièrement clair dans ce premier passage où l'on sait très bien par le contexte que c'est Apollon qui pousse Hector et qui perturbe Ménélas de ce point de vue. La puissance divine concernée n'a dès lors rien de diffus et d'indéterminé puisqu'un dieu précis est à la manœuvre. On le sait puisque le poète nous le dit. D'autres interprètes voient dans ce pros daimona le fait de s'opposer au cours des événements, interprétant ainsi le terme daimon en considérant qu'il est déterminé. Donc, dans certaines traductions, vous aurez contre le daimon ou contre le destin. Beaucoup de traductions reprennent cette notion de destin en considérant qu'ici, ce que moi j'ai laissé comme indéterminé est en fait un des cas présents en poésie où il faut supposer l'article. Parce que c'est ça notre difficulté face à ce type de texte, c'est que l'article n'est pas obligatoire, même quand le substantif est déterminé. Donc il faut un peu deviner hein, ce que le poète a voulu dire. Alors bon, ici moi j'ai pris le parti de garder l'indétermination. Certains considèrent qu'en fait, il faudrait, en grec classique, avoir pros ton daimona, et donc contre le daimon, donc contre le destin. C'est ce que pensait déjà Hilde, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc en 1881, dans cette seule monographie existante sur le daimon, en disant, à propos de ce passage, et d'ailleurs du daimon chez Homer en général, il estimait qu'il s'agissait, et j'ai repris son interprétation à l'écran, il s'agissait du vague symbole d'une providence qui ne s'incarne spécialement dans aucune divinité à laquelle toutes peuvent participer tour à tour. Donc voilà le genre d'interprétation qui a encore cours aujourd'hui pour interpréter notamment ce prosdaimona. Et certains usages du terme chez Homère semblent faire pencher l'interprétation en ce sens. Nous le verrons, je reviendrai. Je ne vais pas escamoter ces données, mais on verra qu'on peut les interpréter autrement. Mais l'expression, en tout cas l'expression daimonie, isos, donc si pour prosdaimona, allez, pour le moment je vais laisser la porte ouverte, pour l'expression daimonie, isos, en tout cas, elle ne peut pas être comprise de la sorte. Comment comprendre qu'un guerrier habité d'une fureur hors norme serait dit pareil à la Providence ? Vous conviendrez que ça n'a pas beaucoup de sens. Or, manifestement, il faut penser ces expressions, daimonie, isos et prosdaimona, ensemble. Or, la délibération de Ménélas doit trouver à s'expliquer en parallèle avec l'expression, étant donné la contiguïté du contexte. Donc, je vous dis, pour moi, il faut prendre ces expressions ensemble. D'une manière ou d'une autre, le daimon de la formule daimoni isos est en relation avec les figures divines sous-jacentes, sous-jacentes à l'action du guerrier ainsi qualifié, que ce soit Athéna pour Diomède, je reviens à mes trois figures iliadiques qualifiées de daimoni isos, Diomède dans ce cas-là est en fait soutenu d'une manière tout à fait exceptionnelle par Athéna, qui lui a donné cette clairvoyance auxquels les humains habituellement ne peuvent prétendre. Donc, vous avez Athéna pour Diomède, vous avez les armes d'Achille pour Patrocle et l'ascendance semi-divine pour Achille lui-même. Achille est loin d'être un guerrier comme les autres, sans quoi il n'y aurait pas d'Iliade. Dans le cas d'Hector, je reviens ici sur mon texte, à l'écran. Dans le cas d'Hector, que Ménélas craint de combattre, le dieu qui soutient le Troyen est explicitement identifié comme Apollon. C'était déjà le cas au champ 15, lors du combat d'Hector et d'Ajax, près des bateaux achéens que décrit le poète. Je vous mets le texte sous les yeux. Donc ici, nous étions au champ 17. Si je reviens un peu en arrière, on voit le poète décrit le combat d'Ajax et d'Hector près des nefs. Donc avec la volonté pour le Troyen d'incendier ces bateaux et pour les Achéens de les protéger. Et voilà ce que nous dit le poète. Tous deux, donc Hector et Ajax, pardon, tous deux luttent pour la même nef sans arriver l'un, en l'occurrence Hector, à repousser l'autre et à embraser la nef, l'autre à chasser le premier qu'un daimon a déchaîné. Et vous voyez ici, encore une fois, vous avez une sorte de glose de la formule daimoni isos. Et puis là, c'est gedaimon. Ce constat, je pense, nous aide... Pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Donc, face à ce texte, nous, lecteurs, parce que nous avons, ne l'oubliez jamais, nous avons en tant que lecteurs, allez, voire auditeurs, si vous avez la chance de vous faire lire l'Iliade, ce qui est un exercice magnifique, ceci dit, nous avons la chance, nous lecteurs, d'avoir une position de surplomb dans cette affaire par rapport aux protagonistes de l'épopée. Nous lecteurs, nous avons la position de surplomb du poète lui-même. Donc nous savons que c'est la puissance d'Apollon qui soutient Hector, puisque le poète donc, l'avait précisé de façon récurrente au cours des vers précédents. C'est Phoibos Apollon lui-même, nous dit-il, qui accompagnait les Troyens, le dieu portant l'égide de Zeus, hein, donc cet objet forgé par Héphaïstos pour mettre les hommes en fuite. Donc vous avez là une aura divine qui accompagne la marche des Troyens et tout particulièrement celle d'Hector, qui explique que derrière ce daimon, on n'a absolument pas une force indistincte, indifférenciée. On a un dieu identifié. Mais évidemment, c'est nous qui sommes capables de l'identifier. C'est le poète qui nous aide à l'identifier. Ce constat nous aide à comprendre, je pense, par un effet de retour, l'expression formulaire « daimoni isos ». Elle implique qu'une action divine est en cours, à travers la figure du guerrier qui est ainsi qualifié, Diomède, Achille ou Patrocle portant les armes d'Achille. C'est à cette action, à cette impulsion que renvoie la notion de daimon. Et pour renforcer ce point de vue, cette première conclusion que je vous soumets sur cette donc, action divine en cours. Pour renforcer ce point de vue, je voudrais vous emmener très brièvement, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, dans les hymnes, le corpus des hymnes pseudo-homériques, pour vous soumettre la seule occurrence de l'expression « daimoniisos » dans ce corpus d'hymnes pseudo-homériques, donc dont la métrique est parfaitement épique. Et je pense que cet exemple, ce parallèle est intéressant parce qu'il apparaît dans un tout autre contexte. En effet, nous allons partir dans l'hymne pseudo-homérique à Déméter. Nous ne sommes plus du tout dans la fureur du champ de bataille iliadique. Nous ne sommes plus sous les remparts de Troie. Nous sommes en fait dans le palais du roi d'Éleusis, qui a accueilli Déméter sans savoir que c'était elle. Vous connaissez certainement l'histoire. Dans la mesure où Déméter est en deuil et en colère, elle se réfugie parmi les hommes, mais sous les apparences d'une vieille femme. Et la famille royale d'Éleusis l'accueille, et les parents du petit garçon, du dernier-né de la famille, demandent à cette vieille dame, qui a l'air très bien de sa personne, et pour cause, de s'occuper de son jeune enfant, de son nourrisson, qui est un garçon après quatre filles, donc vous imaginez la joie. Cet épisode dont je veux vous parler et dans lequel on trouve cette expression daimoniisos, c'est cet épisode magnifique où Déméter, comme pour compenser la perte de sa fille, décide qu'elle va immortaliser le petit Démophon. C'est le nom du bébé en question, du nourrisson en question. Et donc elle entreprend l'immortalisation de Démophon en le frottant d'ambroisie, en soufflant sur lui très doucement son souffle divin, en soufflant son haleine divine, et en le plongeant dans le feu toutes les nuits. Alors les conséquences de ce traitement exceptionnel ne se font pas attendre. Que nous dit le poète du petit Démophon dont s'occupe Déméter ? Il grandissait daimoniisos, pareil à un daimon, sans prendre de nourriture, sans être allaité. La croissance exceptionnelle donc de ce tout jeune enfant est le signe tangible qu'une action divine est à l'œuvre, et évidemment, c'est celle de Déméter. Dans un tout autre registre, c'est ce que font aussi Athéna ou Apollon sur le champ de bataille pour leurs protégés respectifs. Mais dans le cas de l'hymne, comme dans les autres, l'intervention divine a un effet potentiellement terrifiant sur les mortels qui y assistent. Et effectivement, le déchaînement des soldats sur le champ de bataille terrifie leurs adversaires, même Ménélas recule devant Hector, et la croissance de Démophon, ici, stupéfie sa mère, qui se dit « mais que se passe-t-il » Et elle espionne alors cette nourrice manifestement très efficace, elle l'espionne et elle assiste éperdue au passage de son fils par le feu. Inutile de vous dire qu'elle réagit violemment. Ce que la référence au daimon induit dans tous ces exemples, et ici je mets ensemble les exemples tirés de l'Iliade et cet exemple tiré de l'hymne pseudo-homérique à Déméter, ce que la référence au daimon induit dans tous ces exemples, c'est l'effet d'une action divine sur un être humain dont les limites sont repoussées au-delà de ce qui est attendu et qui va donc apparaître dans une dimension supra-humaine au sens strict. Celui qui subit cette action divine est une sorte d'humain augmenté. À l'heure du transhumanisme, on va risquer l'expression. C'est une sorte d'humain augmenté qui est le signe perceptible de l'action divine. Il est la trace du surgissement divin parmi les hommes. Donc, vous voyez que ce passage de l'hymne homérique peut nous aider à poursuivre notre analyse des occurrences de l'expression dans l'Iliade. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en commençant à vous parler de daimoniisos, de cette formule, que l'expression était absente de l'Odyssée. Et pourtant, on y trouve toute une série de scènes fameuses, et elles sont tellement fameuses que je ne les ai pas reprises systématiquement à l'écran, où apparaissent ces sortes d'humains augmentés que j'évoquais il y a un moment. C'est même une des prérogatives d'Athéna dans l'Odyssée, souvenez-vous, que d'insuffler à ses protégés ce surcroît d'humanité qui leur confère une aura divine. C'est le cas d'Ulysse, souvenez-vous. Ulysse, qui est échoué pitoyable sur le rivage de la Phéacie, dont la déesse va faire un être rayonnant de beauté et de charme pour séduire Nausicaa. Hein, il y avait une intention bien précise. C'est encore Ulysse qui, rentrant en Ithaque en mendiant misérable, se voit rendre par la déesse son ardeur et sa jeunesse pour que Télémaque soit en mesure de le reconnaître. Ce dernier va dès lors s'interroger sur la possible identité divine de son interlocuteur. Il voyait un mendiant, il voit un homme dans la pleine possession de ses moyens. Donc il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis il doit se rendre à l'évidence qu'il s'agit bien de son père. C'est encore le cas de Pénélope, dont la même Athéna fait en sorte que la beauté rehaussée de ses dons immortels attise la convoitise des prétendants. Donc il y a toute une série de scènes dans l'Odyssée, donc dans tous ces cas où Athéna est à l'œuvre. Et donc je me suis posé la question, pourquoi le poète n'a-t-il pas recouru à cette expression daimoniisos pour dire les faits que ces humains augmentés d'une certaine manière faisaient sur leurs interlocuteurs ou ceux qui les voyaient. Et donc je vous propose une hypothèse à cet égard. Je pense que la réaction de ceux qui assistent à la métamorphose, dans le cas de Pénélope, dans le cas d'Ulysse, la réaction n'est pas de l'ordre de l'effroi glaçant, comme dans le cas de Diomède, de Patrocle, d'Achille, voire même de Démophon, mais de l'admiration plus ou moins inquiète devant une potentielle action divine. Alors, il est bien sûr délicat de justifier l'absence de la formule daimoniisos dans l'Odyssée par la seule différence de degré dans la manière dont un dieu agit sur un mortel. C'est un peu ce que je vous propose comme hypothèse. Néanmoins, j'attire votre attention sur une différence, une autre différence, sur le fait que la transformation dont il est chaque fois question est tout en extériorité positive dans le cas de l'Odyssée, alors que c'est un comportement hors norme que la formule iliadique évoque chez ceux qu'elle qualifie ainsi, tout comme l'hymne pseudo-homérique à Déméter souligne par ce biais un processus de croissance hors norme. Ce n'est pas soudain l'éclat qui arrive, comme dans le cas d'Ulysse ou de Pénélope. On a affaire à un processus. Dans le premier scénario, donc dans le scénario de l'Odyssée, où on n'a pas l'expression daimoniisos, la déesse Athéna va parer l'humain d'attributs qui en transforment l'apparence. Dans le second scénario, celui du daimoniisos, le poète évoque une action divine qui travaille l'humain de l'intérieur et détermine un comportement qui s'inscrit dans un mouvement, alors plus ou moins subi, en fonction que l'on analyse le champ de bataille iliadique ou la croissance du petit Démophon. Le seul cas où une comparaison, mais en mode mineur, peut s'opérer entre le daimoniisos de l'Iliade et une intervention démonique de l'Odyssée apparaît dans la grotte, mais même si on n'est pas dans le, je dirais, de la transformation extérieure, c'est une intervention démonique de l'Odyssée donc, qui apparaît dans la grotte de Polyphème, le Cyclope, hein, où Ulysse et ses compagnons sont prisonniers et vont manifestement servir de repas à Polyphème. Et Ulysse exhorte ses compagnons avant l'aveuglement du Cyclope, et un daimon leur souffle l'audace au cœur, ce qui leur permettra d'agir. Vous avez ici le texte, c'est Ulysse qui parle, puisqu'il raconte son histoire, il raconte son histoire aux Phéaciens. « J'avais saisi le pieu, je l'avais mis chauffé sous le monceau de cendres, je parlais à mes gens debout m'entourent, un daimon les animait d'une grande audace. » Donc une action divine leur donne le courage nécessaire pour affronter le cyclope. Et cet exemple nous amène au point suivant, donc on a parlé de daimoniisos, on a essayé d'élucider cette expression, le pros daimona qui lui est étroitement chevillé, pas qui lui est associé. Et donc cet exemple nous amène au point suivant, qui est celui d'une action divine qui est explicitement localisée dans le cœur ou dans l'esprit des humains. ce que je pourrais appeler un daimon en l'esprit. Alors, la référence au daimon intervient à maintes reprises en relation avec le souhait qu'un des protagonistes de l'épopée va émettre, un souhait qu'une parole soit persuasive et donc qu'elle soit efficace. Ainsi en va-t-il dans l'Iliade, pour une parole qui doit, vous allez le voir tout de suite, être particulièrement efficace, c'est celle qui doit convaincre Achille de revenir sur le champ de bataille, hein, puisque les Achéens sont en mauvaise posture depuis qu'il s'est retiré du combat. Et donc s'il y a bien une parole qui doit être persuasive, c'est celle-là. Et donc c'est d'abord le vieux phénix dont les Achéens espèrent que ces paroles pourront ébranler la détermination du guerrier en colère. Et donc on s'adresse à Phénix. Tout cela va le dire au vaillant Achille, tu verras s'il t'écoute. Qui sait si, avec l'aide d'un daimon, tu n'ébranleras pas son cœur par tes avis. Donc voilà un exemple, encore un exemple, de la présence d'un daimon dans le propos du poète. Enfin, dans le propos, non, ici d'un personnage, hein, d'une figure, d'un protagoniste de l'intrigue. Qui sait, avec l'aide d'un daimon, tu n'ébranleras pas son cœur par tes avis. Alors, la même formule sera attribuée à la première personne du singulier, à Patrocle, qui lui aussi, mais au champ 15, va essayer de convaincre son ami de revenir sur le champ de bataille. Dans ce cas-ci, donc au champ 9, Phénix entreprend de convaincre Achille avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ce faire, il invoque le précédent, vous connaissez, c'est l'épisode extrêmement célèbre des litailles, des supplications à Achille. Il invoque le précédent du héros Méléagre, qui lui aussi s'était enfermé dans sa colère, avait entendu jusqu'au dernier moment pour écarter les assaillants de sa ville. Et le vieux sage, Phénix, supplie Achille de ne pas faire la même chose, de ne pas se mettre pareille idée en tête, en différant son intervention en appui à l'armée des Achéens. Et que dit Phénix à Achille à ce moment-là? Quand Daimon ne te pousse pas dans cette voie, mon ami. Dans ces différents cas, l'impulsion qui est attribuée à un daimon vient soutenir la persuasion d'un interlocuteur, ou bien, dans ce cas-ci, elle risque, cette intervention du daimon, d'égarer l'esprit de celui qui doit décider d'une conduite à tenir. Et l'Odyssée comporte cette fois des occurrences parallèles. Ainsi, par exemple, Télémaque hésite à l'idée de devoir aborder le vieux Nestor qu'il rencontre à Pylos. Vous savez, Télémaque cherche désespérément à retrouver son père. Et une des premières étapes de cette quête de son père, c'est d'aller trouver Nestor à Pylos pour savoir s'il a des nouvelles. Et Athéna, donc il n'ose pas trop, hein, le jeune homme n'ose pas trop aborder ce guerrier que je pourrais qualifier de mathusalémien. Et donc Athéna, sous les traits de Mentor, tente de le rassurer en lui disant « Mets des mots, Télémaque, il t'en viendra du cœur et un daimon te soufflera les autres. » Vous voyez ici l'occurrence, toujours sans article, de daimon. De la même manière, et là je ne vous reprends pas les textes systématiquement, mais c'est juste pour vous montrer que ce sont des emplois réguliers, Ulysse attribuera à un daimon l'idée qui lui vient en tête pour berner les prétendants. Pénélope fera de même à propos de la fameuse ruse de la toile, hein, la fameuse ruse de la toile qui consiste à tisser la toile le jour et à la défaire la nuit. Dans l'exposé de cette ruse, Pénélope parlera de daimon qui lui a inspiré cette idée. Quant à Ménélas, au début de l'Odyssée, il affirmera que c'est un daimon qui a inspiré à Hélène une ruse pour perdre les Achéens qui étaient dissimulés dans le fameux cheval. L'héroïne était capable alors d'imiter la voix des épouses des guerriers enfermés dans le cheval pour les troubler et pour les faire sortir et donc pour éventer la ruse. Et chaque fois, vous avez l'idée qu'un daimon était en action. Alors évidemment, ces exemples n'inscrivent pas l'intervention démonique dans le registre spectaculaire des forces décuplées sur le champ de bataille, comme le dit Daimoniissos, ou dans la croissance exceptionnelle du petit Démophon. Mais cette fois, c'est une compétence mentale qui est augmentée ou dévoyée quand il s'agit d'une ruse. Les impulsions du daimon peuvent s'inscrire donc dans le registre de la persuasion, de l'audace, de la ruse ou de l'aveuglement. C'est aussi un daimon, par exemple, dont Pénélope considère qu'il lui envoie des mauvais songes. Dans ces différents cas également, on peut faire l'hypothèse que c'est bien un agent divin potentiellement identifiable qui se cache derrière la notion de daimon. Mais l'identité en question n'est pas explicitée, car elle reste généralement inconnue de celui qui subit cette action. En effet, que ce soit la lucidité ou l'égarement, et vous voyez que le daimon intervient dans les deux cas de figure, quand cet état d'esprit est admis et que le héros qui l'a subi tente de se justifier, cette lucidité ou cet égarement sont bien envoyés à des agents identifiés. Je vous donne un exemple. Au chant 19 de l'Iliade, donc quand enfin Achille et Agamemnon se sont réconciliés, Agamemnon reconnaît son aveuglement au moment où il a dépouillé le fils de Thétis de sa part d'honneur, c'est-à-dire le déclenchement de l'Iliade, de l'intrigue de l'Iliade. Et que dit Agamemnon ? Il dit « Pourtant, je ne suis pas coupable. C'est Zeus, c'est Moïra, c'est Érinice qui marche dans la brume, qui à l'assemblée soudain m'ont mis dans l'âme une folle erreur, le jour où de mon chef j'ai dépouillé Achille de sa part d'honneur. Que sais-je pu ? La divinité, un dieu, alors là vous voyez que j'ai laissé l'alternative, parce qu'ici on a Théos. La divinité, un dieu, accomplit tout. Donc dans le cas de la palinodie d'Agamemnon, c'est un théos générique qui résume son propos, mais ça peut être parfaitement Zeus, Moïra, Érinice. Vous verrez que ce sont des figures que l'on va retrouver régulièrement dans notre enquête. En tout cas, ce passage, et c'est en cela qu'il m'intéresse, montre des intersections extrêmement fortes entre daimon, théos, et des dieux nommément identifiés. D'autres cas sont plus riche d'implications encore pour mon propos, puisqu'il dépasse le niveau d'une emprise purement mentale. Quand intervient une action inattendue, inexplicable, elle est attribuée à un dieu qui reste anonyme, toujours dans l'Iliade. Regardez ce passage du chant 15. « Las, dit le protagoniste de l'épisode, à savoir Teucros, un daimon fauche net notre plan de combat. Il me fait tomber l'arc des mains et brise en même temps la corde toute neuve que j'y avais attachée avant-hier pour assurer l'élan d'innombrables flèches. » Or, avant cette lamentation, Teucros s'apprêtait à tirer une flèche censée atteindre Hector et mettre ainsi prématurément fin à la guerre de Troie. Nous ne sommes qu'au chant 15, c'est pas possible. Zeus n'y a pas consenti et a brisé la corde, pourtant solide, d'un arc qui ne l'est pas moins. C'est ce que dit Teucros. Teucros a bien compris qu'une action divine avait entravé le geste qu'il s'apprêtait à poser. Mais là où l'auditeur du poème sait que Zeus est à la manœuvre, et Hector le sait aussi, parce qu'on le voit dans les vers qui suivent, le combattant achéen, en l'occurrence Teucros, en est réduit à se soumettre à une intervention divine qui est indéfinie pour lui. L'identité de ces puissances divines à l'œuvre derrière une action hors norme, et ici c'est une action hors norme, parce que toutes les conditions étaient réunies pour que cet arc fonctionne, pour que cette flèche parte. Il avait changé la corde et l'arc était parfait. Donc il s'est passé quelque chose. Et donc, l'identité des puissances divines à l'œuvre derrière une action hors norme ressentie par les humains n'est pas immédiatement accessible à celui qui la ressent, même si le poète, et l'auditeur du poème, avec lui, ont bel et bien la capacité de mettre un nom sur l'action en question. C'est un des ressorts de l'intrigue épique qui a été reconnue de longue date, qui fait que les personnages mis en scène s'expriment différemment du poète qui raconte les mêmes événements. Et j'attire votre attention sur le fait que ce point a tout récemment été remis en lumière, indépendamment d'ailleurs de la notion de daimon, par Maurizio Bettini dans un collectif dont je ne peux que vous recommander la lecture, qui s'intitule « Les dieux d'Homère, polythéisme et poésie en Grèce ancienne ». Et on trouve dans l'article de Bettini précisément toute cette réflexion sur les deux volets, le point de vue du poète et puis celui des protagonistes de l'intrigue. Il est toutefois un cas où, dans l'épopée, et plus particulièrement dans l'Iliade, et ce sera le dernier texte que je vais analyser avec vous, il est un cas où un daimon est explicitement assimilé à un dieu que je qualifierais d'olympien pour faire bref, par l'un des protagonistes de l'intrigue. Donc jusqu'à présent, je vous ai dit, le daimon, ça veut dire que celui qui subit une action divine n'arrive pas à en identifier la source, n'arrive pas à identifier le dieu qui est derrière cette action. Mais il y a un cas où on trouve une identification entre le daimon et un dieu précis par le protagoniste qui subit l'action en question. Alors évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel protagoniste. Il ne s'agit pas de n'importe quel acteur de la guerre, puisque c'est Hélène elle-même, la belle Hélène, le mobile même du conflit qui oppose les Troyens et les Grecs. Nous sommes au champ Troie. Nous sommes sur les remparts de Troie. Et Hélène est montée sur les remparts pour observer le champ de bataille, pour observer le carnage dans la plaine. Et le roi Priam, qui se trouvait auprès d'elle, lui a demandé de l'aider à identifier les guerriers qui sont sur le champ de bataille, puisqu'elle les connaît. Et donc, elle procède à cette identification, et c'est un passage auquel je reviendrai la semaine prochaine. Mais une fois qu'elle a procédé à cette identification, en fait, parallèlement, Aphrodite, la déesse, a sauvé Paris, donc le nouveau mari d'Hélène, des coups de Ménélas en le transportant dans sa chambre. Vous connaissez cette scène où vous avez les deux guerriers qui combattent et voyant que Paris est en difficulté face à Ménélas, donc les deux maris d'Hélène se battent, Aphrodite sauve Paris des coups de Ménélas et le fait disparaître à sa vue et l'emmène dans sa chambre. Et c'est à ce moment-là que la déesse elle-même vient trouver Hélène, qui est sur les remparts de Troie, pour la persuader de rejoindre son époux dans sa chambre. Aphrodite a pris les traits, nous dit le poète, d'une vieille fileuse spartiate, mais Hélène n'a évidemment aucun mal à reconnaître la déesse et elle va résister violemment à cette tentative de persuasion. Aphrodite se met alors en colère, on ne résiste pas à Dieu. Aphrodite se met en colère en menaçant sa protégée de transformer la grande affection qu'elle a pour elle en une haine farouche qui la fera périr. Et là, Hélène prend peur, elle se voile, elle se soumet, elle se voile et elle quitte les remparts sans être vue de personne. Et le poète de conclure, et voilà le passage qui m'intéresse, elle met sur elle un voile éclatant, s'en va en silence, sans être aperçu d'aucune Troyenne. Et puis vous avez cette expression « erche de daimon ». J'ai conservé ici exceptionnellement pour daimon la traduction de Mazon, mais évidemment je vais la déconstruire. « La déesse guide ses pas », écrit Mazon. Ce cas, pour unique qu'il soit, est particulièrement intéressant, car je pense qu'il permet d'affiner la compréhension des emplois de daimon associés aux différents effets hors normes qu'il suscite et dont je vous ai parlé jusqu'ici. Le daimon, dans les cas que nous avons vus jusqu'à présent, y compris dans le recours à l'expression « daimoni isos », désigne la puissance d'action du dieu, je le répète, qui ne reste anonyme que dans la mesure où celui qui en constate ou en subit les effets ne parvient pas à lui donner un nom. Mais Hélène, elle est fille de Zeus. Elle possède, tout comme Achille, fils de Thétis, une clairvoyance dont les autres mortels ne peuvent bénéficier que très temporairement, comme par exemple Diomède, par l'effet temporaire de l'action d'Athéna. L'émotion et le désir que ressent Hélène quand la fileuse spartiate lui parle de son mari alangui sur sa couche est précisément l'effet induit par l'action d'Aphrodite. Certes, la traduction donc, de « Erche de daimon » par « la déesse guide ses pas » n'est pas fausse. On pourrait éventuellement traduire comme cela. Mais elle appauvrit l'expression et du même coup, la subtilité du poète qui a placé dans un seul terme, daimon, toute la puissance d'une action divine en train de se passer. Ce qui mène en fait Hélène au lit de Paris, au lit qu'elle partage avec Paris, c'est précisément le désir induit par Aphrodite, ce daimon que la déesse lui a envoyé et qui a pris les traits d'une vieille fileuse en laquelle l'héroïne va identifier la déesse elle-même. Dans ce cas précis, pour les besoins de l'intrigue et en regard du statut exceptionnel d'Hélène, Théos, Daimon et la déesse bien identifiée qui est Aphrodite se mêlent inextricablement en raison précisément de la clairvoyance de l'héroïne. Mais au fond, les principes de l'action démonique sont les mêmes, sont identiques à ceux qui frappent les héros au cœur de la mêlée, que ce soit Eucros quand un daimon rompt la corde de son arc, quand une action divine rend un adversaire fou furieux, mais aussi hors du champ de bataille, dans leur tentative de persuader Achille de revenir au combat ou sur l'agora des guerriers, quand Agamemnon agit de manière aberrante, nous dirions mal inspirée, eu égard aux enjeux de la guerre, ou bien qu'Achille risque de s'entêter dans sa colère. Donc ici, avec ce passage du chant 3, je pense que nous avons une pierre de touche particulièrement efficace pour valider l'interprétation que je vous propose depuis le début de cette enquête aujourd'hui. Et donc au terme de ce premier cours sur le daimon chez Homère, puisqu'il y en aura deux, celui de la semaine prochaine poursuivra l'investigation, où en sommes-nous arrivés ? Un premier constat tient à la participation de la notion de daimon au statut divin du fait même de la synonymie possible entre le pluriel théoi et le pluriel daimonos. Ce sont les trois premiers passages que je vous ai soumis en commençant. Les cas sont rares, puisqu'il n'y en a que trois, mais suffisent à souligner cette synonymie possible et donc ce partage d'un statut divin dès l'épopée homérique. En outre, je vous ai montré une série de cas où le singulier Théos et le singulier Daimon pouvaient être interchangeables, ce qui renforce encore ce premier constat. Un deuxième constat est lié à une constante que nous avons vue apparaître dans l'historiographie de la notion, à savoir le statut du daimon, souvenez-vous, on en a parlé à propos de Welker notamment, le statut de daimon comme divinité inférieure, comme divinité mineure, on a vu aussi avec Usener et les Undergötter et les Augenblicksgötter, où chaque fois on retrouvait le daimon qui était donc minorisé, en quelque sorte, infériorisé. Vous remarquerez que dans ce premier parcours au sein de l'épopée, rien ne nous permet de valider une telle interprétation. En tout cas, ce n'est pas en se fondant sur les occurrences de daimon chez Homère que l'on peut déduire ce statut du daimon. Troisième et dernier constat à ce stade de notre investigation, qui est évidemment toujours provisoire, troisième constat, c'est l'association étroite entre le terme de daimon et le registre de l'action divine, dont l'agent reste indéterminé pour celui qui le ressent, qui la ressent, tout en n'étant pas pour autant indéfinissable. Vous comprendrez peut-être pourquoi je qualifiais de paradoxal le point de vue d'Hermann Usener qui favorisait la dimension impersonnelle du daimon au détriment du dieu nommable qui se dressait potentiellement derrière lui. Je vous avais dit en parlant d'Usener, il y a quelque chose de paradoxal dans son interprétation dans la mesure où il s'accroche à la notion de daimon comme indéfinissable, tout en disant « si, si, il y a un dieu derrière ». Et donc, vous voyez, c'est en se fondant sur l'Iliade, on peut dire que le daimon n'a pas forcément cette dimension impersonnelle. Mais évidemment, il nous faudra éprouver ces constatations par d'autres analyses de la matière homérique, et nous ferons cela la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne semaine d'ici là.